Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, CFAQ.
Ça part ici.
Rebonjour, il est actuellement 9h34 sur les ondes de la CFAQ et je suis actuellement en présence de Monsieur Hamdash. Monsieur Hamdash, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation.
Merci, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour que vous nous parliez un peu des problèmes que rencontre le peuple palestinien. Alors pour commencer et pour amorcer cette discussion, dites-nous quels sont les principaux événements récents qui caractérisent l'évolution du conflit en Palestine et des faits saillants qui méritent une attention particulière.
Bon, la première des choses, il faut voir l'historique, ça vient de d'où. Et depuis la colonisation de la Grande-Bretagne, qui a pris le pouvoir, puis a pris la Palestine, qui était sous la domination de l'Empire ottoman à l'époque, avec le Balfour qui a, disons, promis un territoire puis un pays pour les Juifs. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'immigration massive des Juifs vers la Palestine. Et après ça, ils ont armé ces groupes-là, puis ils ont expulsé une bonne partie des Palestiniens. Donc, en réalité, c'est une occupation, c'est pas un conflit, c'est pas une guerre, c'est une... lorsqu'il y a une occupation, normalement, on a le droit de se défendre pour nous libérer. Mm-hmm. Donc, ça vient pas le 7 octobre. Il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose que j'ai bien aimé, et peut-être je vais le répondre. Le problème, ça n'a pas commencé le 7 octobre, mais ça fait 77 octobre. Ça fait 77 ans que les Palestiniens ont subi un massacre, un génocide comme celui, peut-être un peu moins que celui qu'on voit actuellement, parce qu'au moins on a les images. On a les informations en direct, mais à l'époque aussi, il y avait énormément de génocides, il y avait beaucoup de crimes contre l'humanité, contre le peuple palestinien, puis ils ont poussé les Palestiniens, ils ont sorti les Palestiniens de chez eux, celui qui ne voulait pas, il le tuait, lui et sa famille.
Mais on constate beaucoup que l'aide humanitaire est bloquée, mais certaines personnes disent que l'aide humanitaire n'a pas été bloquée. Donc, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés rencontrées par les organisations d'aide pour acheminer des ressources essentielles à la population civile?
La première des choses, lorsqu'on dit qu'il y a une partie qui dit que l'aide humanitaire est acheminée, d'autres qui disent non, il y a deux pays dans le monde qui disent qu'il n'y a pas le peuple criminel ou bien, disons, le pays criminel qui est Israël, qui refuse de rentrer les vivres. Et les États-Unis qui le supportent, puis c'est qu'ils lui donnent les armes, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui disent que la nature arrive, l'aide arrive, puis les autres n'arrivent pas. Il y a deux pays dans le monde qui disent que, même les États-Unis, ils disent qu'il n'y a pas assez de nourriture. Ils ne disent pas que c'est une famine, mais ils disent qu'il y a un manque de nourriture. Mais l'ONU, il a reconnu ça. Tous les organismes internationaux, ils ont reconnu qu'il y avait une famine puis qu'il n'y a pas d'aide humanitaire. Lorsqu'on a bombardé les écoles, on a bombardé les hôpitaux, on a bombardé tout, puis ça fait depuis le 2007 qu'il y a le boycott. Ce n'est pas le 7 octobre. Mm-hmm. Depuis 2007 qu'il y a un boycott, que le Gaza est siégé de tous les côtés. Ils disent que c'est une prison à air ouvert, mais c'est faux, parce que même l'air, il était emprisonné avec l'air, avec les drones puis les avions. Donc, c'est une prison avec tous les mots. Donc, il y a seulement ces deux pays-là qui disent qu'il n'y a pas de nourriture. Écoute, on a des centaines de gens qui sont... des enfants aussi qui sont morts de faim, là, de famine, depuis un certain temps. Dites, c'est quoi les problèmes que les organismes humanitaires trouvent? Ils sont tués, tout simplement. Ils sont assassinés par l'armée israélienne. Et on a plusieurs centaines d'employés de l'ONU et pour les organismes d'aide humanitaire qui ont été tués. De la même façon qu'il y a plusieurs centaines de médecins, d'infirmiers, etc. De la même façon qu'il y a plusieurs centaines de journalistes qui ont été tués. Et Netanyahou, il a dit que tous ceux qui sont contre nous, on va les tuer, qu'ils se soient avec... qu'il soit derrière une arme ou bien derrière un micro ou derrière n'importe quoi, on va les tuer. C'est tout de suite après qu'il y avait l'assassinat de Anas Sharif. Donc, eux autres, ils ne font pas de différence. Okay. ni entre enfants, ni les femmes, ni les enfants, ni les journalistes, ni ceux qui œuvrent dans le domaine humanitaire, ni rien. Regardez les flottilles. Qu'est-ce qu'ils ont? Quelques nourritures symboliques et ils les piratent. Puis ils arrêtent, puis ils les amènent en prison. Mm-hmm. Et là, maintenant, on a la plus grosse flottille qui est pour Gaza. Et d'ailleurs, là, j'ai écouté ce matin, dans 3-4 jours, ils vont arriver à Gaza. Si jamais les pirates ne l'arrêtent pas avant. Mm-hmm. Parce qu'on a et même ils les arrêtent avant même de rentrer sur les eaux de Gaza, mm-hmm. même dans les eaux internationales.
OK, parfait. Parce qu'on sait que les Nations Unies et certaines organisations disent que les journalistes, c'est des personnes civiles. Elles sont juste là pour relater les faits. Elles ne sont pas partie prenante dans le conflit. Donc, tuer un journaliste sur place, ça relate d'un crime de guerre. La question qu'on se pose, c'est comment les journalistes sur place parviennent-ils à documenter la situation malgré les contraintes de sécurité et d'accès? Parce que là, on sait que c'était l'équipe d'Al Jazeera qui faisait le travail, qui nous montrait en direct ce qui se passait. Mais là, avec la quasi-totalité de leurs journalistes qui ont été tués par l'armée israélienne, comment parviennent-ils à montrer les choses?
Parce que ces journalistes-là, ils ont une cause, c'est la cause de la vérité, de montrer la vérité à tout le monde. Ils ont été menacés, comme Anas Sharif, il a déjà dit ça, que j'ai été menacé, puis je suis menacé, puis je mourrai n'importe quand. Mais à chaque fois qu'il tue un, il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève mm-hmm. pour continuer à transmettre la voix de la vérité à tout le monde. Mm-hmm. Une des questions, peut-être, quand vous avez dit, c'était les journalistes d'Al Jazeera et peut-être quelques autres journalistes donc, qui sont là, à Gaza. Mm-hmm. La question qui se pose, pourquoi les journalistes étrangers ne sont pas là? Pourquoi qu'il n'y a pas d'autres stations à Gaza? C'est parce qu'Israël avait l'intention, et il fait un génocide, il est en train d'effectuer un génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Il ne voulait pas avoir de témoins de l'extérieur, ce qui fait qu'ils ont empêché les journalistes de rentrer à Gaza pour transmettre l'information. C'est la raison pour laquelle on n'a que des gens qui vivent à Gaza qui peuvent transmettre ces informations-là. Mm-hmm. Ils le font d'une façon, avec une bravure exceptionnelle. À chaque jour, leur vie est en danger. Il y a même un journaliste qui a dit « Ça fait 3-4 jours, je n'ai rien mangé et j'ai de la misère à marcher, mais je vais continuer ma lutte. Je vais continuer à transmettre la vérité pour le monde entier. »
Donc on voit que la situation à Gaza, c'est vraiment déplorable ce qui se passe. Récemment, les Nations Unies ont déclaré qu'il y avait présentement un génocide en cours en Palestine. Plusieurs États ont reconnu l'État de la Palestine, notamment la France, le Canada. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations?
La première des choses, lorsqu'on dit que les Nations Unies, ils ont déjà reconnu qu'il y avait peut-être un génocide à Gaza. Ça fait plus qu'un an et demi que la Cour internationale elle avait dit ça. Mm-hmm. Et Trump, qu'est-ce qu'elle a dit? Si vous attaquez, vous poursuivez, nous, c'est des Américains ou nos alliés, on va vous punir. Mais ça n'a aucun sens. Même la Cour internationale, ils veulent la contrôler, et d'une façon ouverte et claire pour tout le monde. Mm-hmm. Ils disent partout que la justice doit être indépendante. Mais de l'autre côté, devant tout le monde, le président des États-Unis, il déclare d'une façon claire et nette, vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit de poursuivre les citoyens américains ni nos alliés. Ça veut dire que nous, on a le droit de faire n'importe quel crime et vous n'avez pas le droit d'agir. Mm-hmm. Netanyahou, il est sous ordre d'arrestation et il y en a d'autres aussi là.
Ouais, Smotrich, Galant.
Smotrich et les autres. Comment ça se fait qu'il peut voyager partout dans le monde? Donc ça, c'est juste pour vous dire que jusqu'à quel point la liberté ou le droit international, le droit des individus, les droits de la personne, etc., c'est à double standard. Mm-hmm. Ça dépend, tu viens de quel pays. Mm-hmm. Et si ton pays est fort, c'est la loi de la jungle. Si ton pays est fort, il peut faire ce qu'il veut. Si ton pays est faible, il n'a le droit de rien faire. Et la vie de la population pour laquelle qui viennent des pays qui sont pauvres ou bien qui sont même dans la moyenne ne voit absolument rien. Alors que la vie de quelqu'un qui vient d'un pays, et même, ça dépend même de ton opinion, hein, parce qu'il y avait des citoyens américains qui étaient pour la cause palestinienne, qui étaient tués par Israël, qui étaient assassinés par l'armée israélienne. Et les États-Unis n'ont absolument rien fait. Mais dès qu'il y a un qui est sioniste, qui est attaqué, ça, c'est la fin du monde. La deuxième question que tu avais posée, c'était sur les reconnaissances du Canada. Oui, c'est un bon geste, mais la première des choses, c'est qu'il est quand même assez bizarre de reconnaître un pays qui existe déjà depuis je ne sais pas combien de temps, que les Nations Unies, elles déclarent, ça fait quand même depuis 67, même après la première colonisation, etc., il a déclaré un État palestinien. Et là, tu viens 60 ans plus tard pour dire que je le reconnais. Mais c'est normal que tu le reconnais parce qu'il est déjà dans les Nations Unies, il a déjà des sièges sur les États-Unis, aux Nations Unies. Comment ça se fait que tu viens juste le reconnaître? La deuxième chose que j'espère que ce ne serait pas seulement, disons, l'encre sur papier qu'on va, faire, oui, la reconnaissance, mais avec rien d'autre qui vient par après. Là. Si tu reconnais l'État de Palestine, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de décider de leur avenir, ils ont le droit de décider leur politique et tout. Puis j'espère que vous allez faire quelque chose pour arriver à ça. Mm-hmm. Et j'espère qu'il va y avoir des sanctions pour les pays qui vont entraver ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir, est-ce que c'est correct? Oui, c'est arrivé très, très, très tard. Ça, c'est la première des choses. Mais normalement, on n'a même pas besoin d'une reconnaissance parce que les Nations Unies, ça fait depuis 67 qu'ils ont reconnu un État de Palestinien. Mm-hmm. C'est ce qu'il fallait reconnaître, c'est qu'Israël est en train de faire un génocide et qu'Israël, il fait de l'occupation du peuple palestinien depuis des décennies.
Parfait. Enfin, quel dernier message voulez-vous, voulez-vous faire passer aujourd'hui?
La première des choses, c'est la cause de Gaza. Ce n'est pas une cause arabe, ce n'est pas une cause musulmane. C'est une cause humanitaire. Mmh. Toutes les personnes libres de ce monde-là, les personnes humaines de ce monde-là, doivent se révolter contre non seulement le génocide qui se passe à Gaza, mais un peu partout, pour l'égalité de toutes les nations, l'égalité de tout individu. Tout être humain a le droit de vivre. Tout être humain a droit à une dignité. Tout être humain a le droit d'une scolarité. Tout être humain a le droit à le service de la santé et tout, et peu importe son origine. Mm-hmm. Et pour cela, je pense que les sionistes, ils brisent toutes ces valeurs-là. Mm-hmm. Ils sont contre toutes ces valeurs-là, sauf lorsqu'il s'agit de quelques-uns parmi eux. Et d'ailleurs, il faut vraiment distinguer juifs et sionistes. Mm-hmm. Parce qu'on a, avec Sherbrooke Gaza, on a des juifs qui participent avec nous régulièrement dans nos activités. Puis j'en connais plusieurs, il y a même des gens qui viennent de Montréal, des juifs qui luttent pour l'indépendance de la Palestine et qui disent que c'est un génocide. Mm-hmm. Et qui travaillent très fort dans leur communauté et avec la communauté. Et pour les affaiblir, ça prend absolument un boycott pour tous les produits qui aident ces crimes-là et qui aident ce génocide-là et qui aident c'est des criminels comme Netanyahou et Ben Rafir, Smotrich et les autres. Et il y a une application que si vous pouvez la télécharger, il va vous dire que tel produit est à boycotter ou non. L'autre chose... Vous avez sûrement parlé, vous avez entendu parler de cas d'Ahmad Moussatat. Mm-hmm. C'est un Syrien qui œuvre pour l'humanité, mm-hmm. d'une manière générale. Il a ramassé des dons pour aider les victimes à Gaza. Et d'ailleurs, lorsque vous avez parlé tantôt de l'aide humanitaire, il n'y a rien qui rentre. Okay. Les gens meurent de faim. Mm-hmm. Et les sionistes à Montréal, ils ont, c'est un gars qui est très, 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 très brillant. Mm-hmm. Il avait des excellentes notes au Collège Dawson. Mm-hmm. Et lorsqu'il faisait des demandes pour la médecine, ils ont réussi à le bloquer dans plusieurs universités à Montréal, okay. telles que l'Université de Montréal, l'UQAM. Mais bravo à l'Université de Sherbrooke et je les félicite pour ça. Et je les remercie pour ça parce qu'ils ont traité son dossier d'une façon équitable, d'une façon juste. Ils ont dit qu'il était innocent jusqu'à preuve du contraire. Mm-hmm. Effectivement, ils l'ont accepté en médecine, sauf que là, maintenant, il est menacé de mort, puis il ne peut même plus sortir de chez lui. Mais encore, je dis merci à l'Université de Sherbrooke. Et d'ailleurs, il a été blanchi de toutes les reproches et toutes les accusations qu'ils ont eues. Merci. Et merci encore pour les responsables de l'Université de Sherbrooke, surtout en médecine.
Merci. On vous remercie, M. Hamdash, pour votre présence aujourd'hui.
Merci à vous.
Nous allons passer en pause musicale.